L'autre hémisphère, une chanson de Marie-Pierre Arthur.
Une finale qui nous met dans l'ambiance du roman policier L'été de tous les lieux, une enquête de Michel Duquesne, écrite par Catherine Lafrance, autrice, journaliste également. Bonjour Catherine.
Bonjour Hélène.
Ça me fait très plaisir de vous accueillir de nouveau parce que vous êtes déjà venue en entrevue pour parler d'une autre enquête de Michel Duquesne.
Oui, deux ou trois fois.
Alors Catherine, votre nouveau roman connaît beaucoup de succès là, depuis sa sortie. Je suis très heureuse pour vous.
C'est très gentil. Oui, je dois dire que ça va bien. Il monte dans les palmarès des ventes et on en parle. Et ça, évidemment, pour un auteur, c'est extraordinaire.
Oui.
On en parle. Je me considère privilégiée parce que c'est pas tous les auteurs qui ont cette chance-là. Là. Mm-hmm. Moi, je vois là, ça un peu débouler. Cette semaine en particulier, peut-être. Il y a plusieurs articles. Il y a un blog français, Le Monde du polar, spécialisé en polar, qui en a parlé en long et en large. Alors ça fait, de un, ça fait vraiment plaisir. Et de deux, c'est efficace parce que ça fait connaître le livre et la série, parce que c'est le quatrième tome d'une série.
Oui, une série qui est loin d'être finie, j'imagine.
Qui n'est pas finie. Non. C'est sûr qu'il y en aura un autre.
Alors, ce nouveau roman, L'été de tous les feux, titre absolument brûlant d'actualité, sans vouloir faire de jeu de mots.
Ça, on peut dire mais... ça. Je ne suis pas une visionnaire, là. Mais je fais référence au feu de 2023, oui. Mais évidemment, les incendies, ça se répète cette année. Et il ne faut pas être, c'est pas très, très difficile de voir un peu à l'avance que les étés sont devenus une saison propice à des catastrophes. Là.
Oui.
Et c'est ce qui arrive.
Et qu'est-ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les dirigeants n'ont pas l'air à voir la gravité de la situation.
Quand le feu survient, il est un peu tard. Parce
ouais.
que là, on fait tout ce qu'on fait, c'est contrôler puis essayer de sauver le plus de villes, de villages, de personnes, de maisons et de forêts possibles. Mais dans les faits, le problème, il faut le traiter en amont.
Ouais.
Alors, si
comme
on
tout
pas
problème,
en amont,
finalement.
Ben, finalement, hein, ça ne serait que jamais tout seul.
Non. Alors, ce roman-là, nous plonge dans les incendies de forêt qui ont marqué le Québec en 2023. Et est-ce que vous vous êtes dit, il y a un roman à écrire là-dessus. Comment c'est arrivé l'idée de ce roman policier? On dit tout roman policier, polar?
Oui, roman policier, polar, oui, okay. Oui, tout à fait. On dit roman policier, même si mon personnage principal, mon enquêteur, n'est pas un policier. Et je vais vous faire la réponse que je fais systématiquement, qui est vraiment la réponse la plus, probablement la pire que je puisse donner.
Ah oui?
C'est « je ne le sais pas ». Je ne sais pas comment les idées... Je sais rarement comment les idées m'arrivent. Les idées m'arrivent d'un coup. Peut-être parce que c'est un peu dans l'air du temps. Évidemment, en 23, ça m'avait fasciné de voir les forêts brûler. C'est un peu dans l'air du temps. C'est un peu quelque chose de préoccupant, évidemment. Donc, c'est comme attraper le rhume, là. C'est quelque part dans l'air. J'attrape ce virus qui est une idée. Puis là, ça se développe. Et j'en attrape plusieurs des idées comme ça. Et je vois laquelle je vis avec dans ma tête, toutes ces idées. Et là, je vois laquelle reste, laquelle continue à m'habiter, laquelle se développe. Et c'est celle-là que je vais écrire. Donc je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment du départ, mais je peux vous dire que dès que j'ai senti qu'il y avait un sujet là, là, les idées ont commencé à arriver dans ma tête et j'ai vu des personnages, à part mes personnages récurrents, évidemment, donc les personnages secondaires se développer, notamment le fameux pompier qui perd la vie, là, mais je peux le dire parce que c'est dès le début. Donc ça, c'est arrivé très, très tôt là, dans mon processus. Donc je me suis dit, OK, il y a une histoire. Alors après, quand c'est la même chose, toujours la même démarche quand je commence un roman, je me dis toujours, OK, j'ai mon histoire, je sais comment je vais la raconter. Maintenant, il faut que je trouve pourquoi je veux raconter cette histoire-là. C'est pas tout de raconter une histoire.
Ça prend une raison, un objectif.
Raison. Oui, parce que sinon, on sait pas ce qu'on va en dire. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi cette histoire-là? Et je me suis dit tout simplement parce que les feux de 2023 vont se répéter, parce qu'il y en aura de plus en plus, parce que ça va rester un sujet d'actualité peut-être tout le temps maintenant.
Jusqu'à temps qu'on s'éteigne pour vrai,
exactement.
Au complet.
Et on peut dire ça. Alors voilà. Donc, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je sais que des épisodes comme celui de 2023, il y en aura d'autres ici, ailleurs. Et il y en a cette année, beaucoup en Ontario, il y en a en Europe.
On en parle à tous les jours.
Oui, et les forêts sont dévastées. Et certains villages, parce que là, on a vu dans le nord de l'Ontario, il y a des villages qui ont été rasés.
Oui.
Alors, c'est...
Des morts c'est, aussi, oui. Des victimes.
Oui.
Et Catherine, est-ce que vous avez fait appel à la SOPFEU, qui est la Société de protection des forêts contre le feu, pour comprendre le feu, son comportement, pour que le contexte soit crédible? Parce qu'il est crédible quand on vous lit. J'avais l'impression que j'étais devant une experte, là.
Je suis loin d'être une experte. Mais je n'ai pas fait d'entrevue avec la SOPFEU parce que quand on a affaire à des organismes comme la SOPFEU, c'est extraordinaire parce que tout est documenté. Donc, il faut aller chercher l'information. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis allée chercher l'information sur la SOPFEU, dans des rapports, dans des études.
La journaliste a fait son travail.
La journaliste a fait son travail et tout était accessible.
Ah oui.
Et j'ai réalisé à un moment donné que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour créer quelque chose de crédible. Mm-hmm. Parce que des entrevues, j'en fais régulièrement, là, notamment pour, surtout, je dirais, pour mon deuxième roman, le deuxième de la série, en fait, sur les pharmacies, les produits pharmaceutiques, les gens qui ont des chirurgies cardiaques. Ça, là, il fallait absolument que je fasse une entrevue. Et j'ai été chanceuse parce qu'un cardiologue a accepté de me donner une longue entrevue d'au moins une demi-heure. Et il m'a donné toutes les informations.
Parler de Le Dernier Souffle et le plus lourd,
exactement.
Paru en 2023.
Oui. Mais dans ce cas-ci, j'avais vraiment tout. Tout est écrit sur les feux, tout est documenté pendant, après. On a des rapports d'étapes. Il y a tout le fonctionnement de la SOPFEU. On a accès à ces informations-là. Alors, c'est extraordinaire. Donc j'ai eu accès à tout ça.
Est-ce que vous aviez l'impression d'apprendre plein de choses en lisant sur les feux, les incendies, la réalité aussi des gens qui essaient de combattre les feux?
On apprend énormément chaque fois qu'on fait des recherches. Alors oui, j'ai appris beaucoup sur ces gens-là, sur ce qui les motive, sur la façon dont ils travaillent. J'ai fait appel aussi à mon expérience parce que, comme vous l'avez dit, j'ai été journaliste, je suis encore dans ma tête.
Ou on peut l'être, j'imagine que journaliste toujours.
Oui, parce que ça
pas devient... Pas un défaut.
Non, je pense pas. Ça devient des réflexes là, dans la recherche notamment. Mais je me rappelle que j'avais couvert, il y a des décennies, de 20 ans, je pense, de ça, des incendies à Mont-Laurier, apparents, en fait, dans un petit village dans le nord du Québec.
Oui, oui.
Les gens avaient été évacués et les journalistes avaient pu se rendre jusqu'à Mont-Laurier. Donc, moi, je faisais partie de cette cohorte de journalistes qui étaient à Mont-Laurier et ne pouvaient pas aller plus loin. Mais
Parce que c'était trop dangereux.
C'était trop dangereux. Ouais. Mais les gens qui arrivaient de Parent, et je me rappelle de ça comme c'était hier, ils descendaient des petits avions là, que la SOPFEU avait et la Croix-Rouge avait nolisé pour eux. La Croix-Rouge avait mis sur pied des refuges. Et ces gens-là, quand les portes des avions s'ouvraient et qu'ils descendaient, qu'ils arrivaient vers nous, les journalistes, ils sentaient le feu.
Ah oui.
L'odeur était partout dans leurs vêtements, la fumée sur leur peau. Et ils traînaient ça. Et ça m'avait marqué.
Je comprends.
Donc, tout ce qui est... Tout l'aspect...
Parce qu'on le ressent, on la sent, l'odeur aussi.
Absolument.
En vous lisant.
Oui. Je suis contente d'entendre ça, tant mieux, parce que c'est tellement prenant, l'odeur du feu comme ça. Et donc, toute la partie refuge, mise sur pied des refuges, comment ça fonctionne, tout ça, j'ai vu ça de près. Mm-hmm. J'ai regardé plusieurs reportages, notamment Radio-Canada sur 2023, sur où les réfugiés avaient été envoyés, comment on les avait accueillis, comment ça se passait pour les réfugiés, etc. Mais moi, j'ai vu des endroits là, où les gens étaient des réfugiés, les petits, quand je parle des petits litigants, là, puis des couvertures grises, puis ça j'ai vu ça se passe comme ça.
Alors, ça ne se passe pas par an dans votre roman, ça se passe à Chibougamau. Ce territoire-là vous a inspiré?
Ce territoire m'a inspiré. Je suis allée il y a 2 ans faire un tour sur la côte nord. Là, on est dans le même type de forêt, hein, parce qu'au Québec, on a la forêt laurentienne, la forêt boréale. On a tous ces types de forêts-là jusqu'au nord, jusqu'à la toundra. Donc, quand on arrive sur la côte nord, on est dans la forêt boréale, parfois même dans la taïga.
Ah oui?
Oui, il y a des endroits où c'est carrément la taïga. Donc, c'est un territoire que je connaissais un peu, je vous dirais, je suis pas une experte de ce territoire, mais je le connaissais un peu et je le trouve fascinant parce que c'est chez nous, mais on le connaît peu et on en parle peu. Et ça, c'est dommage. On parle peu de nos régions dans la littérature, dans les films, etc. Donc, j'avais envie de mettre ça de l'avant. Et dans les faits, il y a eu des incendies en 2023 dans cette région-là, notamment à Chappé, qui est tout près de Chibougamau.
Et il y a les gens qui sont responsables justement de faire évacuer la population qui ont quand même, c'est une lourde responsabilité sur leurs épaules. On pense à la mairesse fictive de votre roman qui doit peser le pour et le contre. On n'aimerait pas nécessairement être à sa place.
Non, parce que tout pour elle sera une mauvaise décision. Donc,
ah oui.
Parce qu'elle peut juste se tromper. Donc, sa question à elle, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déclare maintenant? Est-ce que j'envoie une ordre d'évacuation maintenant? Si le feu touche pas la ville, les gens vont tellement m'en vouloir. Est-ce que j'attends, mais là, ça va devenir dangereux. S'il y a des blessés et des morts, les gens vont m'en vouloir. Fait que je ne serai pas réélue. Alors, c'est son dilemme.
Oui, tout à fait. C'est un problème insoluble. Là, mais
insoluble.
Elle va trancher à un moment donné quand même. Alors, j'arrête pas de faire des jeux de mots, mais c'est malgré moi. Là, vous avez plusieurs marrons sur le feu dans ce roman-là. Il y a plusieurs fils narratifs, l'enquête policière, la catastrophe naturelle, mais aussi il y a des drames plus personnels, plus intimes. Je me demandais, Catherine, si, je suis toujours avec Catherine Lafrance en passant, si vous aviez un plan précis ou si vous vous laissiez porter par le récit, parce que tantôt, vous parliez de votre idée en tête. Là. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec un stylo puis un papier, avec votre ordinateur? Comment ça fonctionne, là?
Avec mon ordinateur, mais oui, je fais des plans précis. Il existe aujourd'hui des logiciels très, très, très bien organisés d'aide à la rédaction, si on veut, là, qui sont des logiciels dans lesquels on peut faire des plans détaillés avec des espèces de fiches de personnages. C'est très bien fait. Donc, visuellement, c'est intéressant parce qu'on voit là, très facilement nos personnages, l'organigramme, etc., qui connaît qui dit quoi à qui. Parce que ça, c'est important quand on écrit un polar.
Il faut que ça soit raccord.
Il faut que ça soit raccord, comme on dit. Il faut qu'on sache quels sont les indices qu'on veut donner au lecteur. Quels sont les indices que l'enquêteur obtient, comment, par qui et quand, et qu'est-ce qu'il en fait? Donc, tout ça, c'est impossible de retenir, en tout cas pas pour moi, je peux pas retenir tout ça dans ma petite tête. Alors oui, je fais des plans détaillés et je fais aussi, j'ai vraiment tout un dossier recherche là, dans lequel je compile toutes mes informations, mes liens, vers où aller. Je mets des photos aussi parce que les photos aide parfois à comprendre et à voir
des photos de qui, de quoi.
Dans ce cas-ci, j'avais des photos de véhicules brûlés, j'avais des photos de forêts brûlées, j'avais des photos de forêts après les feux, les cendres, parce qu'il faut, il fallait que je décrive aussi à un moment donné quand les feux sont passés, qu'est-ce que mon enquêteur va trouver s'il se rend sur les lieux où il y a eu un feu.
Ouais.
Ça va être quoi? Ça va être des cendres, des arbres complètement brûlés, des arbres à moitié brûlés. Est-ce qu'il y a, par exemple, quand on a des photos des incendies, des vraies photos, je parle là, pas des affaires truquées, là, des vraies photos prises justement par des organismes comme la SOPFEU ou autre, la police des fois, bien, on voit qu'il y a des espèces d'endroits où les flammes ne vont pas. Parce qu'un feu, c'est pas comme un mur droit.
Non.
Ça avance de façon inégale.
Puis quelquefois, on le voit pas, mais c'est là quand même, là, dans
exactement.
Le sol. Ça bouillonne par en dessous.
Ça bouillonne, ça peut aller sous terre, les flammes. Et c'est là où les gens peuvent se faire piéger. Parce qu'ils peuvent être dans un endroit où ils pensent que ça va aller, qu'ils sont OK parce qu'il n'y a pas de feu, mais le feu les entoure, mais ils ne peuvent pas le voir. On peut le voir des airs, par exemple, mais eux, de là où ils sont, ne peuvent pas le voir. Et ça, je savais que je voulais jouer là-dessus parce que c'est étouffant. Parce qu'on sent le danger.
Mm-hmm.
Je voulais qu'on sente le danger. Je voulais qu'on sente la proximité des flammes.
Oui, on le sent pour certains personnages. Il y en a qui se font prendre carrément par le feu ou sinon par des humains qui sont mal intentionnés. Le journaliste d'enquête, Michel Duquesne, comment vous le trouvez? Est-ce que vous le trouvez courageux?
Je le trouve
comment
téméraire.
Vous le décrivez?
Je le trouve téméraire. Moi, dans ma vie de journaliste, j'aurais jamais fait ce qu'il a fait. Je connais peu de journalistes qui ont fait ça, sauf peut-être les journalistes qui couvrent les guerres, par exemple. Ça, oui, là.
Mais au début, sinon, ça n'étend pas trop, lui, d'aller couvrir les feux.
Non.
Mais c'est quand il y a quelqu'un, une victime.
Oui. Michel Duquesne, c'est quelqu'un qui va toujours défendre les victimes. C'est quelqu'un qui veut toujours chercher à faire la lumière sur les événements. Donc, il se placera toujours du côté des ce qu'on appelle les perdants. C'est pas quelqu'un qui défend les riches et les puissants. Au contraire, c'est quelqu'un qui s'attaque aux institutions quand les institutions ne font pas leur job de défendre le citoyen. Alors là, dans ce cas-ci, c'est pas les institutions le problème, c'est le feu, mais ça devient son ennemi personnel, le feu. Et il y va justement parce que, oui, ça lui semble intéressant, il peut pas résister, là. C'est quand même une grosse nouvelle. C'est un journaliste. je sais ce que c'est. On veut aller là où ça se passe. On veut aller au front. C'est dans l'ADN du journaliste de vouloir ça. Et aussi, ben, son patron, qu'il aime beaucoup, qui est un ami, lui demande. Donc, il ne veut pas lui dire non. Alors, pour toutes ces raisons, il se dit « Ah, je pars ». Même s'il y a un prix à payer parce que, évidemment, sa conjointe reste à la maison avec les trois enfants au moment où elle est avocate, au moment où elle a un gros procès sur les bras. Elle ne sera pas contente et on la comprend.
On la comprend très bien. Donc, au risque de perdre cette femme-là.
Oui, qui est la femme de sa vie.
Oui. Il y a quand même un petit kick pour quelqu'un d'autre, là.
Oui, mais, si, mais il lutte contre ça.
Oui, oui. Mais Odile, il l'a porte dans son cœur, c'est sa conjointe. Oui. Alors, vous l'avez dit tantôt, Catherine Duquesne a encore des enquêtes devant lui. Vous avez encore des univers à explorer.
Oui, je peux vous dire que le plan du cinquième est fait en grande partie. Je vais encore travailler là-dessus. J'ai pas fait dans le détail, en grande partie. Et le cinquième va répondre à bien des questions. Qu'est-ce qui arrive avec Odile? Qu'est-ce qui arrive avec le couple Odile-Michel Duquesne? Donc ça, à un moment donné, il faut que je boucle ça. Là. Donc, je vais le booker. Et qu'est-ce qui arrive avec le demi-frère de Michel? Donc,
ceux Jacob.
Qui ont lu les... Oui, Jacob. Ceux qui ont lu les premiers romans le savent.
Pas très sympathique, ce Jacob-là.
Mystérieux.
Oui, oui.
Alors, c'est le frère... En fait, c'est le deuxième fils que sa mère a eu. Michel Duquesne l'a découvert sur le tard. Et Jacob est mêlé à la vie d'Odile sans qu'Odile l'ait voulu. Elle l'aime pas du tout. Alors, est-ce que Michel devra choisir entre Odile et Jacob?
Oui, ça ressemble à ça, en tout cas, dans l'été de tous les feux. Est-ce qu'il faut lire les autres enquêtes pour bien suivre? J'ai l'impression... Parce que
On me dit que non, que c'est pas nécessaire.
Moi, je dis ça.
Bon, ben parfait, ben, ça va être ça. Ouais. Moi, je dis que ça fait une lecture plus agréable, mais c'est pas obligatoire.
Oui. Puis aussi, vous faites des mises en contexte.
Oui,
là.
Oui, tout à fait.
Les catastrophes naturelles révèlent souvent le meilleur et parfois le pire des êtres humain. Est-ce que cette vérité-là vous intéressait,
oui,
Catherine?
Oui, tout à fait. Et je pense justement aux pompiers, qui sont des gens immensément courageux,
Ils risquent leur vie à chaque instant.
Oui, pour nous, pour nous sauver.
Oui.
Moi, j'ai une admiration sans borne pour ces gens-là. Mais je pense aussi aux gens qui choisissent, par exemple, de ne pas écouter les autorités quand on leur dit qu'il faut évacuer, qu'il faut partir, qu'il faut quitter sa maison. J'imagine à quel point ça doit être dur, mais il y a des gens qui choisissent de rester chez eux et parfois, ils payent de leur vie ce choix-là. Et ça me trouble beaucoup. Dans notre société actuellement, on voit de plus en plus ça, des gens qui doutent des autorités en place, qui ne les croient pas, qui sont sceptiques, qui sont cyniques. Ouais. Alors, ils préfèrent...
Depuis la COVID, on dirait qu'on a appris à les connaître. Ils se sont montrés, se sont exprimés sans pudeur, sans complexe.
Sans filtre, exactement. Ouais. Exactement. Ça arrive. Je ne sais pas si ça arrive de plus en plus souvent. Je ne peux pas dire, mais je sais que ça arrive. Ça me trouble profondément. Fait que si je peux passer un message, là, si vous êtes dans un petit village encerclé par les flammes et qu'on dit qu'il faut partir, il faut partir.
Et vos deux précédents polars ont été finalistes au prix Saint-Pacôme. L'un d'eux a aussi été remarqué par les Crime Writers of Canada. Bravo.
Merci.
Est-ce que cette reconnaissance change votre manière d'aborder un nouveau roman ou vous tentez d'oublier ces prix-là?
Un peu, parce que ça me conforte. C'est comme une petite tape sur l'épaule. On me dit, bien, t'es dans la bonne direction. T'es sur la bonne voie. Alors je continue.
Oui.
C'est ça que ça me dit.
Toujours dans le même genre.
Toujours dans le même genre, oui, et avec la même série. J'ai d'autres idées, là. J'ai d'autres projets dans mes cartons. Qui sont un peu hors série, qui sont différents. Bon, mais je ne veux pas en parler parce que là, ce n'est pas sur le point de se réaliser. On m'a approché aussi pour créer des nouvelles dans des collectifs de nouvelles.
Vous l'avez déjà fait.
Je l'avais déjà fait. Là, il y en a deux qui sont en production, disons. Et ça me permet de voir autre chose. Mais, et c'est pour ça que je suis très, très, très contente de voir que les gens semblent aimer ce tome-là parce que j'ai travaillé un peu différemment. J'ai vraiment travaillé sur la psychologie des personnages. Et quand on me dit qu'on aime ça, bien, ça m'encourage à continuer. C'est la même chose quand on est finaliste pour un prix ou quand on gagne un prix, bien, ça encourage à continuer sur cette voie et à essayer d'aller plus loin et plus en profondeur. Mm-hmm.
Donc, un bel encouragement puis une motivation supplémentaire. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout dans le métier d'écrire, Catherine Lafrance?
Ah, créer quelque chose, laisser quelque chose, trouver le moyen de prendre les idées qui sont dans ma tête, de les mettre sur papier, que quelqu'un les lise et que ça aille dans sa tête. Ça, pour moi, c'est magique. Je ne suis pas sûre de comprendre tout ce phénomène, mais quand je vois ou quand j'entends des gens qui me disent « Ah, ben moi, j'ai ressenti telle chose, j'ai compris telle chose » et que je vois que c'est exactement ce que je voulais qu'ils ressentent, c'est fantastique. Alors ça, c'est peut-être la plus belle partie, mais vraiment... Je suis pas sûre que je me demande tous les jours ce que j'aime, mais je pense que c'est plus fort que moi écrire de toute façon maintenant. Et je veux faire ça jusqu'à
votre dernier souffle.
Jusqu'à mon dernier souffle, si je peux.
Une vraie passionnée.
Oui.
L'été de tous les feux, c'est à lire. Il faut avoir le temps, là, parce que quand on commence, on ne peut plus arrêter.
J'espère.
Et c'est une enquête de Michel Duquesne par Catherine Lafrance et c'est publié chez Druide. Merci Catherine pour ce livre et pour cette entrevue. Puis bonne continuation. On va se laisser, nous, avec Caravane.